Tu peux lancer la première diapo. Donc en fait, ce matin, je vais vous parler des résistances. Alors, est-ce que vous avez des résistances dans vos vies? Bon, on va peut-être essayer de traiter ce sujet de manière à ce que, au moins, vous puissiez enclencher des choses qui vont vous amener à ne plus résister à ce que Dieu veut pour vos vies. On a besoin. Ces derniers temps, on sent vraiment que ce que le Seigneur dit, parce que, en fait, cette prédication, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai sur mon cœur, et puis, dans ce qui a été partagé il y a 15 jours, la semaine passée, je sens vraiment cette continuité dans ce que Dieu veut faire. Et donc, quand j'ai préparé ce message, je suis allé voir un peu sur Internet, et il y a des études qui sont faites dans le monde par rapport aux résistances. Et vous verrez, on va parler de 4 étapes. Et je vous dis tout de suite, ne soyez pas embêtés si vous ne vous retrouvez pas dans ces 4 étapes. Parce que ça, c'est une étude que le monde a fait. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas, mais en tout cas, ça reflète quand même un peu ce qu'est l'être humain. Mais vous verrez, je ne suis pas d'accord avec tout. Alors, il est écrit ici que toute personne normalement constituée passe par 4 étapes face au changement. Et la première étape, c'est non. Je ne veux pas changer. C'est refuser le changement. Pourtant, dans Proverbes, au chapitre 1, versets 32 et 33, Dieu dit « Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre. » Et donc je pense qu'en tant que chrétien, quand on nous dit il va y avoir un changement dans ma vie. Si vous avez cette attitude de dire non, je ne suis pas d'accord, posez-vous la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne attitude de dire je ne suis pas d'accord avec le changement? Parce que, au travers du proverbe que je vous ai lu, vous voyez ce que Dieu dit par rapport aux gens qui résistent. Et puis, dans 1 Pierre 5,5, il est écrit, et là, c'est, on pourrait dire, bah, tu parles de résistance, et ce verset-là dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Et donc, on peut s'imaginer quand même qu'il y a des résistances qui sont bonnes et des résistances qui ne sont pas bonnes. Et là, Dieu, s'il résiste aux orgueilleux, c'est parce que, je crois que nous savons, pour la plupart, qu'être orgueilleux, c'est pas vraiment bien, parce que ça nous amène des complications dans nos vies. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et en fait, ne pas se conformer, c'est aussi une manière de résister. Ne pas juste accepter les choses, mais vraiment de résister par rapport aux choses qui ne sont pas celles que Dieu attend de nous. Il y a, comme je disais, il y a aussi des bonnes résistances, puisque Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc là, quand je parle de résistance, je veux bien faire la part des choses en disant qu'effectivement, il y a des résistances dans nos vies qui ne sont pas bonnes, qui nous empêchent d'avancer avec Dieu, parce que la résistance, elle est souvent par rapport au changement, et ces derniers temps, au travers des prédications, on parle de la résistance, du changement plutôt. Et donc, c'est de ne pas résister au changement que Dieu veut opérer dans nos vies. Mais c'est de vraiment accepter que ce que Dieu a prévu, c'est bon pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut ne plus regarder les choses comme étant quelque chose que l'on va perdre, mais comme quelque chose que l'on va gagner. Charles Finney, un évangéliste américain qui a vécu entre 1792 et 1875, a dit ceci. C'est un évangéliste qui était bien connu. Et je veux dire, ça vaut la peine parfois d'aller revoir ce que certains hommes de Dieu ont dit. Et cet homme a dit, tout chrétien disciple impressionne par sa conduite et rend témoignage plus ou moins. Il rend témoignage par son aspect extérieur, par sa toilette. Toute son attitude donne une impression favorable ou défavorable. Donc, comment nous tenons-nous devant les autres par rapport à ce que Dieu attend de nous? N'oublions pas que nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu a des projets extraordinaires, mais qu'il veut accomplir au travers de nos vies. Il ne peut s'empêcher de témoigner pour ou contre la religion. Et en lisant ça, je me suis dit, quand même, si on est disciple de Jésus, normalement, on ne va pas témoigner contre. Mais certainement que cet homme, à son époque, il avait vu qu'il y avait des gens qui se disaient chrétiens, mais qui témoignaient contre Dieu. Soit ils rassemblent pour Christ, soit ils dispersent. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup après, c'est à chaque pas, vous faites vibrer des cordes qui résonneront dans toute l'éternité. À chacun de vos mouvements, vous appuyez sur des touches dont l'écho retentit dans tous les vallons et les collines des cieux et dans tous les sombres caveaux et cavernes de l'enfer. À chacune de vos actions, vous exercez une influence capitale sur les destinées éternelles des âmes qui vous entourent. Mais c'est en bien ou en mal. Notre manière d'agir en tant qu'enfant de Dieu, et je pense qu'au milieu de nous, il y a des gens qui pourraient dire « Oui, mais moi, les chrétiens, j'ai vécu des choses et je ne suis pas d'accord avec ça, donc ça m'a affecté. » Et voilà, j'ai de la difficulté avec ça. Et malheureusement, comme nous sommes des témoins, si nous ne sommes pas de bons témoins, les personnes, elles se détournent de Dieu. Et là, je voudrais rappeler aux gens que les hommes vous décevront, les femmes vous décevront dans la vie. Mais Dieu ne vous décevra jamais. Dieu ne fera peut-être pas ce que vous avez voulu, mais Dieu ne vous décevra jamais. Et je pense qu'on peut demander aux personnes plus âgées dans la foi, qui ont vécu des choses avec Dieu, même en ayant vécu des souffrances, mais de savoir que Dieu ne vous déçoit jamais. Évidemment, nous trouvons dans la parole de Dieu des serviteurs qui résistèrent pour Dieu et en bien. Si on regarde dans Genèse 39 et les versets suivants, on voit Joseph qui résiste au fait que la femme de Potiphar voudrait qu'il vienne avec elle dans son lit. Et ça, c'est une bonne résistance. Il veut plaire à Dieu, donc il résiste. Dans Daniel, les superintendants et puis les satrapes, les conseillers de l'époque, vont voir le roi et puis lui demandent de publier un avis disant que personne pendant 30 jours ne peut prier un autre Dieu ou une autre personne que le roi. Parce qu'en fait, ces gens-là étaient contre Daniel, ils voyaient qu'il prospérait et puis ça les dérangeait. Donc du coup, ils se sont dit, mais comme on sait qu'il prie souvent Dieu, on va le prendre en flagrant délit et ça nous permettra de l'éliminer. Parce qu'en fait, à l'époque, quand le roi décrétait quelque chose, il ne pouvait pas revenir sur sa parole. Et donc là, il décrète ces choses-là en disant pendant 30 jours. Mais évidemment, le roi n'était pas au courant qu'il faisait ça contre Daniel, alors que le roi aimait Daniel. Et donc, le décret est là. Daniel prie, et puis ces personnes le prennent en flagrant délit. Donc, ils l'amènent au roi et disent, « Roi, tu as décrété ça, donc tu dois absolument faire ce que tu as dit. » Et donc, le roi est très embêté, il prend du temps, il jeûne. Et pour finir, comme il l'a décrété, il met Daniel dans la fosse aux lions. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, la fosse aux lions, en général, les lions n'avaient pas à manger. Donc, vous pouvez imaginer, une fois qu'il a été mis dans la fosse aux lions, qu'il se serait fait dévorer. Mais Dieu le garde. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que le matin, quand le roi va le voir et qu'il voit donc que Daniel est toujours vivant, il fait tuer non seulement tous ceux qui ont voulu qu'il fasse passer cette loi, mais non seulement les hommes qu'il avait demandé, mais il a fait tuer leurs femmes et leurs enfants. Et donc, on voit que quand Dieu s'occupe des situations, les choses sont complètement différentes. Et qu'on ne peut pas croire que une personne m'a fait du tort, cette personne va en subir les conséquences. Dieu va bien au-delà. Parce qu'il sait bien, et on l'a vu hein, dans le peuple d'Israël, quand il est entré sur une terre, il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas très bien, mais Dieu dit, vous exterminerez tout. Les animaux, les hommes, les femmes, les enfants. Et là, on pourrait se dire, mais quand même, Dieu... En fait, c'est parce que Dieu sait très bien que les hommes et les femmes et les enfants pourront amener le peuple d'Israël à se détourner de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu faisait ces choses-là et disait ça. Et donc, Daniel sort libéré et donc tous ces hommes, leurs femmes, leurs enfants sont mis dans la fosse aux lions. Nous devons apprendre à ne pas minimiser l'impact que nous pouvons avoir dans ce monde, car nous sommes fils et filles de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Dans Jean 1,12, il est écrit que la lumière est venue dans le monde, la lumière qui est Christ, et à tous ceux qui l'ont reçu, si vous avez reçu Christ dans votre vie. Et Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça, ça vous rapporte certainement à ce que Matthieu nous a partagé la semaine passée. Mais j'y reviendrai plus loin. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, ce n'est pas juste croire en son nom, c'est croire et obéir à ce que Dieu nous dit. Et moi, ma question, c'est est-ce que vous vous sentez enfant de Dieu ? Dans votre vie, quand vous vivez ce que vous vivez, est-ce que vous vous sentez enfant de Dieu ? Ou est-ce que vous vous sentez orphelin ? Si vous vous sentez enfant de Dieu, ce n'est pas une honte. Si vous ne vous sentez pas enfant de Dieu, pardon, ce n'est pas une honte. Mais parlez-en, parce qu'il y a peut-être des blocages dans votre vie, il y a peut-être des résistances dans votre vie que vous ne connaissez pas et qui vous empêchent vraiment de vivre ce que Dieu a prévu pour vous, de pouvoir être son enfant comme il a prévu que vous le soyez. D'autres qui ont résisté contre Dieu, Saül, Dieu lui dit au travers du prophète Samuel d'attendre 7 jours. Et puis Saül voit que le peuple est un peu en train de s'énerver et donc il décide de faire le contraire de ce que Dieu a dit et il offre les sacrifices à la place de Samuel. Lui résiste contre Dieu. Pour ceux qui le savent, sa destinée s'est terminée en tant que roi et Dieu a choisi David à sa place. Donc il y a vraiment des conséquences quand nous résistons par rapport à ce que Dieu veut. La deuxième diapo, après refuser le changement, c'est résister et se plaindre. Je vous disais tout à l'heure, moi je ne suis pas d'accord avec tout, et avec ça je ne suis pas d'accord. Alors c'est vrai qu'on peut résister, parfois par rapport à ce que Dieu nous demande, mais en tout cas ne nous plaignons pas. Ce n'est pas une bonne attitude, et je crois que ça déplaît au Seigneur quand nous commençons à nous plaindre devant lui, que Dieu ne fait pas ce que nous voudrions qu'il fasse. Oui, mais dans cette situation, je résiste parce que je n'ai pas envie, mais je ne connais pas encore tous les bénéfices que ça va pouvoir m'apporter, mais donc je vais me plaindre. Et c'est vraiment le fait d'avoir une attitude de cœur, de fils et de fille de Dieu, et de savoir que si Dieu veut amener des changements, c'est qu'il a ses raisons de le faire, et que ça ne peut être qu'un bien pour nous. Et puis, au lieu de se plaindre, c'est de voir le pour et le contre. Peut-être faire une liste du pour et du contre du changement que ça va m'apporter. Ou peut-être aller voir quelqu'un et lui demander « Mais est-ce que tu ne peux pas m'aider dans cette situation parce que je ne m'en sors pas tout seul ?» Et aussi parce qu'on ne se voit pas toujours tel que l'on est. Et parfois, dans des situations où on entend parler du changement, on se dit « Non, mais moi, je n'ai pas besoin. » Et puis, si on discute avec quelqu'un d'autre, il va dire bah, « Je pense que tu es le premier concerné. » Mais nous, par déni, parfois, on n'accepte pas. Puis, notre résistance, elle vient parfois de très loin. On en a déjà parlé, mais ça peut venir de mon éducation familiale. Ça peut venir de ce que l'on m'a enseigné à l'école. Ça peut venir de ma famille, mais de mes amis proches. Pas juste l'éducation familiale de mes parents, mais peut-être de mes frères, de mes sœurs, de mes cousins, de mes cousines. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais une fois apporté un message où il y avait 3 tiroirs. Il y avait ce que je croyais, donc mes croyances, puis ce qui était faux et puis ce que l'on mettait en attente. Donc les vérités, les mensonges et ce que l'on mettait en attente. Et vraiment, je vous encourage à ne pas rester focalisé sur des choses qui aujourd'hui vous paraissent être justes. Et de pouvoir accepter que si Dieu propose des changements, c'est qu'il y a une bénédiction derrière. Ce verset, quand on le lit, on se dit, mais quand même. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Je vais prendre le passage en entier. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Alors, quand il est écrit ça, c'est pas que Dieu veuille séparer les familles. Mais à partir du moment où on veut obéir à Dieu, malheureusement, il y a des situations parfois qui sont inévitables et où ça ne se passe pas bien dans la famille. Entre le père, le fils, la mère, la fille, la belle-mère, la belle-fille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et là, ça peut être effectivement une résistance de dire, mais si j'accepte tel changement dans ma vie, que va dire ma famille? Que vont dire mes amis? Que vont dire mes collègues de travail? Que vont dire mes profs, si on est encore à l'école? Que vont dire? Vous voyez? Et parfois, ça nous bloque dans nos changements. On résiste au changement parce que l'on voit ce que ça va impacter dans nos vies par rapport aux gens qui nous entourent. Alors que ce que Dieu a prévu, de toute façon, c'est mieux que ce que l'on peut imaginer. La liberté que Dieu a prévue pour nous, ah oui, si je ne lis pas le début. On peut être sauvé, mais ne pas vivre la liberté que Dieu a prévue pour nous parce que nous lui résistons dans certains domaines. Par exemple, la résistance à Dieu quand je lis la parole de Dieu. Je lis telle chose, mais je résiste parce que je n'ai pas envie ou je ne vois pas l'intérêt. Jacques 1, 23, 25 nous dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, c'est vraiment important de lire, de connaître la parole de Dieu, parce que l'on voit qu'en tant qu'être humain, il y a des situations dans nos vies qui nous empêchent ou qui nous bloquent, alors que Dieu a des solutions à tout et qui veut nous amener plus loin dans la liberté, dans moins de résistance par rapport à ce que Dieu a prévu. Je crois qu'en tant que chrétien, on devrait commencer par celle-là, des diapos. Quand on nous dit, voilà, il y a un changement qui va s'opérer, c'est tout de suite d'analyser les avantages que ce changement va pouvoir opérer dans ma vie. Parce que c'est vrai que, de prime abord, on peut croire que ça va vraiment nous empêcher dans certains domaines. Mais si on prend le temps de faire une liste, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter dans ma vie? Quelles sont les bonnes choses, les moins bonnes choses? Et si on fait la liste, vous verrez certainement, souvent, rapidement, que ça vaut la peine de changer. Parce que ce que Dieu a prévu est tellement meilleur. Et puis, je dirais, quand on lit ce verset, c'est quand même... Alors, évidemment, c'est un verset de la parole de Dieu, Et par rapport à la situation, ce n'est pas un verset qu'on utilise d'habitude pour ça. C'est plus dans ce que, dans notre engagement avec le Seigneur, ça vaut la peine de réfléchir, de savoir ce que ça va coûter. Est-ce que je passe par les eaux du baptême ou est-ce que je ne passe pas par les eaux du baptême? Est-ce que je m'engage dans l'Église? Est-ce que ma vie va servir aux autres? Et là, ça vaut la peine de se poser, de réfléchir et de calculer ce que ça va nous coûter. Mais au travers des résistances, ça peut être aussi ça, de se dire, mais qu'est-ce que ça va me coûter si j'accepte ce changement dans ma vie? Qu'est-ce que ça va me coûter de ne pas résister? Nous ne sommes pas des moutons à devoir juste suivre parce qu'on nous dit ça, mais de connaître la parole de Dieu et de savoir, mais qu'est-ce que Dieu attend? Ou qu'est-ce que Dieu a prévu pour ma vie au travers de tout ça? Puis on peut avoir des résistances dans les petites choses, hein, comme dans des grandes. Est-ce que ma façon de penser est conforme avec ce que Dieu dit, avec ce que j'entends lors des prédications? Parce que ce matin, peut-être que vous allez sortir d'ici en disant, moi, je n'ai pas envie. Et vous avez le droit. Je vais dire, Dieu ne sera pas contre vous pour autant, puisque Dieu vous aime. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, Dieu va vous aimer. Par contre, est-ce que vous n'aurez pas plus de liberté à accepter les changements de Dieu dans vos vies? Est-ce que vous n'aurez pas la certitude de vivre la vie éternelle avec lui parce que vous acceptez ce que Dieu dit? C'est le meilleur. Dieu a prévu le meilleur pour vous. Ou est-ce que je suis d'accord avec ce que je lis dans la parole de Dieu? Et là, je voudrais revenir à ce que Matthieu disait la semaine passée. Quand il a apporté sur l'esprit orphelin, je me suis dit, mais même ça, vous pouvez dire, je ne veux pas. Je connais mon environnement, je connais l'état dans lequel je suis, et donc je dénie le fait que j'ai un cœur d'orphelin. Alors moi, ça, je peux vous en parler, j'ai perdu mon papa, j'avais 6 ans, donc. Mais en dehors de ça, même en mettant ça de côté, si on regarde au plus profond de notre être, est-ce que dans des situations bien concrètes, on n'est pas orphelin? J'ai beaucoup aimé ce que Matthieu disait, que ce n'est pas juste ne pas avoir de père ou de mère. C'était aussi dans cet état de solitude. Et ça, je crois que tout être humain, à un moment donné dans sa vie, se retrouve dans un état de solitude. Et que c'est bien de faire le point et de pouvoir reconnaître. De toute façon, quand on reconnaît, on ne perd rien. On gagne beaucoup de choses avec le Seigneur. De reconnaître l'état dans lequel on est et accepter de passer à autre chose. Et je crois que les résistances qui sont les plus difficiles pour nous, c'est au travers de notre caractère. Et je crois que c'est dans notre caractère que Dieu veut travailler le plus. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons été faits à l'image de Dieu, mais la vie a fait que nous sommes parfois loin de ce que Dieu avait voulu. Et son désir, c'est vraiment de nous ramener à ce que lui avait prévu pour lui. Et Jacques 1, 22 dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et c'est vrai, hein, on peut lire la parole et dire, « Ah oui, je suis d'accord pour les autres. Ah oui, je suis d'accord, mais pas pour moi. » Alors que, soyons honnêtes, quand Dieu nous parle au travers de sa parole, c'est pour nous en premier, c'est jamais pour votre voisin. Et nous, en tant qu'êtres humains, souvent, on dit, « Ça, c'est pour mon voisin ou ma voisine. » Ça, c'est pour mon épouse ou mes enfants. Alors que Dieu dit non. La première personne à qui je parle au travers de ma parole, c'est à toi. Est-ce que j'ai des résistances dans ma manière de parler? Éphésiens 4, 29 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Est-ce que, durant cette semaine, il est sorti de votre bouche des paroles mauvaises? Il n'y a aucun jugement, mais nous sommes fils et filles de Dieu. Nous devons travailler à ce que notre vie honore notre Père. Et c'est vrai que malheureusement, actuellement, je trouve beaucoup plus qu'avant, et je ne veux pas dire avant c'était mieux, mais je trouve que ce que le monde propose fait que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de fils et de filles qui honorent leurs parents. Et alors, après, c'est vrai, on pourrait dire, oui, mais il s'est passé ça dans la famille, tu ne connais pas tout. C'est vrai, ok. Et la Bible dit dans les commandements, honore ton père et ta mère, et tes jours se prolongeront. Et on ne peut pas, à un moment donné, dire, oui, mais pour moi, ce n'est pas la même chose. La parole de Dieu est claire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à régler et qu'il faut pouvoir le faire. Et parfois, si on ne peut pas le faire en tant qu'enfant par rapport aux parents, c'est d'aller voir des responsables d'église et leur demander conseil. Mais je vous garantis qu'il y a vraiment des libérations, des guérisons et des délivrances que Dieu peut opérer au travers de ça. La résistance concernant mes finances. Ah ben oui, mais je ne peux pas donner tout ça parce que j'ai besoin de vivre. Oui, peut-être. Mais j'ai besoin de vivre avec quoi? Avec 5 000 euros par mois? Waouh, si j'avais ça. Avec 4 000? Ah, si j'avais ça. Avec 1 500? Ah, là, c'est comment? Mais c'est quoi nos critères? Quels sont nos critères? Est-ce que je vais résister à ce que Dieu me dit parce que moi, j'estime qu'il me faut un minimum d'argent, telle somme, pour que le mois se passe bien? Donc, voyez, les résistances, ce n'est pas juste des résistances dans des choses importantes et des chamboulements dans nos vies, mais dans des petites choses, telles que celle-là. Des résistances concernant ma sexualité. Est-ce que, dans ma vie sexuelle, je vis ce que Dieu attend de moi? Ou, ben oui, mais moi, je suis marié, donc je fais ce que je veux avec mon épouse ou avec mon mari. Mais est-ce que tu ne résistes pas à Dieu dans certains domaines de ta vie parce que tu fais comme tu veux et pas comme Dieu aimerait que tu fasses? Et puis, la meilleure manière de changer, à mon avis, c'est de passer du temps avec les frères et avec les sœurs. Proverbe 27, 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Et je préfère la version de la Darby qui dit « Ranime le visage de son ami. » Et c'est vrai que c'est parce que nous nous frottons les uns aux autres que l'on apprend des choses. Et souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'école, quand le prof écrivait au tableau, parfois, aïe, 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 les oreilles. Ou alors, il y a des profs qui le font exprès, entre autres dans un film, ou avec les ongles sur le tableau. Ah effectivement, c'est ah, des frissons. Et donc, le fer qui aiguise le fer, c'est un peu ça. Ce bruit-là, il peut vraiment nous faire réagir. Mais le fait de le faire, ça l'aiguise et ça nous permet vraiment de vivre des réalités dans nos vies. Et on apprend beaucoup plus des autres que de soi-même. Et puis, le fait de vivre au contact des uns des autres, ça nous amène aussi à partager nos expériences. Et peut-être à ne pas passer par les mêmes chemins que par lesquels la personne est passée, parce qu'elle peut nous aider. C'est pour ça, en tant que parent, parfois on dit à nos enfants, mais ne fais pas ci, ou ne fais pas ça, ou fais ceci, ou fais cela. Et il y a des situations pour lesquelles les enfants écoutent, obéissent, et puis ça se passe bien. Et puis d'autres, les enfants vivent leurs expériences. Et quand ils ont vécu leurs expériences, ils reviennent vous voir et disent, je comprends ce que tu voulais me dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en tant que parent, c'est vraiment aussi important de prendre du temps pour prier pour nos enfants. S'ils ne veulent pas écouter, bah, prier que Dieu le conduise de manière à ce qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Ça aussi, c'est important. Et puis, ma question par rapport aux résistances, c'est est-ce que les résistances que j'ai dans ma vie, en général, ne sont pas dues au fait que je n'ai pas confiance en Dieu? C'est pour ça que j'en reviens à est-ce que tu te sens fils et fille de Dieu? Vraiment dans le terme plein, être fils et fille de Dieu. C'est vraiment important. Ou parce que je ne crois pas ce que les prédicateurs peuvent dire. Ou parce que je ne crois pas que les responsables d'église, ce qu'ils me disent. Ou peut-être je disais tout à l'heure, pour un enfant, ses parents. Mais ça peut être même pour des adultes, d'avoir des amis à côté de soi qui nous disent « Mais moi, à ta place, je ne ferai pas ça. » Mais est-ce que ma résistance, ce n'est pas un manque de confiance ? Mais évidemment, le premier manque de confiance, c'est par rapport à Dieu. Comment je vois Dieu ? Qu'est-ce que je vis avec Dieu ? Je crois que c'est la diapo qui est la plus agréable pour tous, comme c'est écrit. Appliquer et tirer profit des avantages du changement. Mais appliquer et tirer profit des avantages du changement, vous pourrez le faire à partir du moment où vous acceptez de changer. Vous pouvez regarder les choses de loin et dire « Ah, ce serait bien que » et ne jamais y entrer. Vous allez pouvoir vraiment entrer dedans à partir du moment où vous allez accepter. Et puis, j'aime bien reprendre la parole de Dieu. Dans Proverbe 3, 5 à 6, il est écrit, on l'a chanté ce matin, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Dieu dit que ses voix ne sont pas nos voix, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, ma sagesse n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas ma sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors, j'espère que dans les prochains temps qui viennent, vous accepterez plus rapidement le changement, que vous ne resterez pas avec vos résistances et que la première et la deuxième diapo que l'on a vue ne sera plus à l'œuvre dans vos vies. Ce ne sera pas stop et puis je me plains. Je résiste et je me plains. Mais que tout de suite, vous pourrez vraiment entrer au travers de la troisième diapo. J'analyse et puis j'accepte. Alors, je vais vous encourager à ça ce matin. Donc, j'en ai fini avec le message, et je voudrais prendre un petit temps pour prier. Je ne pense pas que Dieu parle juste pour parler, mais je crois que quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut agir. Alors ce matin, il y a peut-être des résistances dans ta vie que tu as pu rencontrer au travers de ce que tu as entendu, et peut-être que tu te dis « oui, c'est vrai, dans telle ou telle situation ». Je résiste, ou j'ai résisté, mais peut-être que je résiste encore. Parce que si tu as résisté et que tu as abandonné, ben c'est bien, tu vas changer, tu vas évoluer. Par contre, si tu résistes encore, il est peut-être temps de dire « Seigneur, je te dépose ça, je te dépose mes résistances et je veux entrer dans la liberté que tu as prévue pour moi. » Parce que Dieu, ce qu'il a prévu, c'est la liberté. Pas la liberté telle qu'on la conçoit, mais c'est la vraie liberté. Alors Seigneur, je te priais ce matin et te demander de continuer à travailler le cœur et les consciences de chacun d'entre nous. Et Seigneur, je suis tout à fait dans le lot parce que j'ai encore besoin de changer. J'ai encore besoin d'abandonner mes résistances. J'ai besoin d'accepter ce que toi tu as prévu pour ma vie. Parce que je le sais, que ce que tu as prévu pour ma vie est bien meilleur que ce que moi je peux prévoir pour ma vie. Et Seigneur, le fait aussi d'accepter de ne plus résister, ça veut dire que je me soumets davantage à toi et je te fais plus confiance. Et je prie, Père, pour que ton esprit soit à l'œuvre, que ce qui a été déposé maintenant puisse commencer à grandir, porter du fruit. Seigneur, qu'ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous puissions aller de l'avant, ne pas résister à ce que tu dis, à résister à ce que l'ennemi veut dans nos vies, mais pas à ce que toi tu nous dis, afin que nous entrions pleinement, personnellement, mais aussi ensemble, en famille et aussi ensemble, en église, dans ce que toi tu as prévu. Et je prie, Seigneur, parce que nous avons besoin de l'aide de ton esprit pour encore venir et mettre en lumière dans nos vies ce qui doit être mis en lumière. Je prie pour que tu sois à l'œuvre dans chacune des vies et que tu te glorifies. Aide-nous à être des témoins de notre Père. Aide-nous à recevoir pleinement le Fils, le cœur d'adoption que tu nous proposes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.